Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. La troisième manifestation nationale des Gilets jaunes marquée par des violences. Plus de 100 000 personnes auraient enfilé leurs Gilets jaunes hier en France, selon une source syndicale policière. 10 000 personnes à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, alors que le rassemblement sur les Champs-Élysées a de nouveau hier dégénéré et monté encore d'un cran de plus par rapport à la semaine dernière. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Alors vous étiez hier place de l'Étoile à Paris où des affrontements violents ont eu lieu, notamment sous l'Arc de Triomphe, des images qui ont fait le tour du monde.
Oui, on peut parler de véritables scènes de guérilla urbaine à proximité de l'Arc de Triomphe et dans les rues perpendiculaires aux Champs-Élysées, mais aussi sur la prestigieuse avenue Foch dans le quartier de l'Opéra, rue de Rivoli ou encore boulevard Haussmann. Un hôtel particulier incendié, plusieurs magasins pillés, des voitures retournées et également incendiées, des panneaux de signalisation et des lampadaires mis à terre. La préfecture de police de Paris dit avoir interpellé 205 personnes. Il y a plus de 100 blessés, dont un gilet jaune en urgence absolue. Un gilet jaune qui apparemment se trouvait dans un groupe ou à proximité de personnes qui ont arraché une grille du jardin des Tuileries. Il y a aussi au moins 14 policiers blessés. Les forces de l'ordre qui ont aussi dû faire face à des manifestations violentes dans les régions. Le fief de Laurent Wauquiez, le patron du parti Les Républicains, a été pris pour cible. La préfecture du Puy-en-Velay, en Haute-Vienne, a été incendié par des gilets jaunes déçus par leur rencontre avec le préfet. Des violences et des interpellations, il y en a eu aussi à Bordeaux, Toulouse, Nantes, Tours, Dijon, Charleville-Mézières ou encore Marseille. Marseille où la colère était renforcée par l'effondrement récent d'immeubles vétustes dans le centre-ville.
Aucune cause ne justifie ces violences, a déclaré Emmanuel Macron depuis le G20, le chef de l'État qui a réagi hier, alors que l'exécutif se montre fébrile face à cette crise qui s'aggrave, Anne.
Oui, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé à la télévision hier soir, d'abord sur TF1, puis sur BFN, ces chaînes que les manifestants ont vilipendées toute la journée dans le cortège parisien. Christophe Castaner qui a reconnu des erreurs au niveau de la communication du gouvernement.
Est-ce que vous voulez que je vous réponde que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème? Ce serait à la fois paraître idiot et surtout vous mentir. On a objectivement mal géré un certain nombre de séquences, de communication, de pédagogie, notamment sur l'enjeu de se sortir du tout pétrole, de cette exigence de souveraineté nationale, de baisse de dépenses, d'augmentation du pouvoir d'achat. Ce sont les mesures qu'on a mises en place. On n'a pas été compris ainsi. Et donc oui, par exemple, sur cette communication, pour nous battre contre la dépendance pétrolière, on s'est planté.
Et concernant l'état d'urgence demandé par deux syndicats de police, le ministre de l'Intérieur répond qu'il n'a pas de tabou. La question sera peut-être à l'ordre du jour de la réunion de crise organisée ce matin à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron, à peine rentré d'Argentine. Édouard Philippe a aussi annulé son déplacement à la COP24 en Pologne pour être présent. Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nunez viendront évidemment avec les représentants des services du ministère de l'Intérieur, car si quatrième week-end de mobilisation il y a la semaine prochaine, la réponse des autorités devra être différente.
Merci Anne Fauquemberg. Et dans le JDD ce matin, plusieurs figures du mouvement des Gilets jaunes appellent au calme et au dialogue avec le gouvernement. Contrairement aux pronostics pessimistes, le G20 de Buenos Aires, on en parlait à l'instant, n'a pas été une exception. Il a bien eu sa déclaration finale, signée par tous ses membres. Le texte a réussi l'exploit de tracer un chemin commun, tout en laissant à chaque pays le soin d'avancer à son rythme, Marie Viennot.
Plus de 60 réunions préparatoires, une nuit de discussion et les négociateurs du G20 ont donc réussi l'exploit de ne froisser personne. Dans le texte final, il n'y a aucune référence au protectionnisme ni aux tensions commerciales récentes. La mort de George Bush père a permis opportunément à Donald Trump d'annuler sa conférence de presse finale. Par respect pour la famille, a-t-il justifié. Jusqu'au bout, il n'y aura eu aucune question qui fâche et le président américain, que tout le monde craignait, n'a donc pas exprimé de désaccord au moment d'accepter le communiqué final. C'est le plus important, selon Emmanuel Macron, le président français.
Avec Donald Trump, nous avons véritablement obtenu un accord. Les États-Unis d'Amérique ont accepté un texte sur le multilatéralisme qui est très clair sur la réforme de l'OMC et l'objectif commun que nous poursuivons. Et comme à Hambourg, et de manière non surprenante, ils n'ont simplement fait que réitérer le fait qu'ils n'étaient plus dans l'accord de Paris. Donc je considère au contraire que ce G20, les discussions que nous avons eues, permettent justement de construire une voie commune.
Emmanuel Macron insiste, cet accord du G20, c'est concret. Les discussions sur la réforme de l'OMC ont déjà commencé. Le G20 se donne un an pour faire état des progrès. Sur le climat, en revanche, le texte reconnaît à chacun, je cite, « son propre chemin pour aller vers un futur basse émission », façon de ne pas déclarer l'état d'urgence climatique, même si l'accord de Paris est mentionné, ce qui devient maintenant un minimum à ce genre de sommet.
Marie Viennot, envoyée spéciale de France Culture au G20 à Buenos Aires. Donald Trump a accepté de maintenir à 10% le taux du droit de douane sur 200 milliards de dollars de produits importés chinois et de ne pas porter ce taux à 25% au 1er janvier 2019 comme c'était prévu. En Hongrie, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban renforce sa mainmise sur les médias. Depuis son arrivée au pouvoir il y a 8 ans, l'homme fort de Budapest a mis l'audiovisuel public à sa botte et fait acheter de nombreux médias privés par des amis entrepreneurs. Ces hommes d'affaires viennent d'annoncer qu'ils font don de leurs entreprises de presse à une fondation dirigée cette fois par un fidèle de Viktor Orban. À Budapest, les explications de Florence Labrouillère.
C'est la naissance d'un énorme groupe de presse. La nouvelle fondation va regrouper près de 500 médias hongrois, des télévisions câblées, des radios, des sites internet et toute la presse quotidienne régionale. Cet empire médiatique, le Premier ministre hongrois Viktor Orban l'a bâti en rachetant des journaux aux groupes étrangers qui avaient investi en Hongrie, comme l'allemand Axel Springer et le suisse Ringier. Les proches d'Orban ont aussi lancé de nouveaux organes de presse et tous ces médias sont devenus de fidèles serviteurs du pouvoir. Avec la nouvelle fondation, gérée par un fidèle d'Orban, l'information sera encore plus centralisée. Le plus étonnant est que les propriétaires aient donné gracieusement à la fondation leurs entreprises de presse, estimées à au moins 90 millions d'euros. Selon des médias hongrois indépendants, c'est un signe que ces hommes d'affaires n'étaient que des prête-noms et qu'ils ont agi sur ordre du pouvoir. Officiellement, le nouveau consortium pro-Orban doit veiller à la préservation des valeurs nationales, mais il suscite l'inquiétude. Une telle concentration du pouvoir médiatique est unique en Europe.
Elle était l'une des plus grandes figures du théâtre de boulevard. La comédienne Maria Pacón est morte hier. Elle avait excellé dans les rôles de bourgeoise exubérante. Elle avait 95 ans. La pluie dominera presque partout aujourd'hui, dès ce matin, sauf sur la Côte d'Azur, le Roussillon et la Corse. Les températures sont comprises aujourd'hui entre 4 et 15 degrés le matin jusqu'à 17 degrés l'après-midi.